autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour chercher à comprendre ce qui nous passe par la tête à chaque instant. Qu'est-ce qui se joue là maintenant, à notre insu, dans notre cerveau ? Du lever au coucher et jusque dans notre sommeil, notre cerveau ne s'arrête jamais. Pourquoi et comment notre psychologie s'articule avec cette activité cérébrale permanente ? Comment des processus chimiques, électriques, se traduisent instantanément en émotions, en pensées, en perceptions et en actions ? Décryptage avec notre invitée, la neuropsychologue, chercheuse et clinicienne Sylvie Chocron, dans son nouvel ouvrage original, concret et sensible, intitulé « Une journée dans le cerveau d'Anna ». Et vous verrez combien il s'en passe de choses autour de la question. Qu'est-ce qui se joue à chaque instant dans notre cerveau ? Bienvenue dès le réveil, forcément caféiné et musical, signé Oldelaf sur RFI.
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé, j'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Où est-ce que tu vas ?
Me crie mon aimé.
Prenons un kawan, je viens de me lever.
Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter, le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre,
le fort comme vous l'aimez.
Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait.
Un café, voire deux, voire trois, rien de tel pour réveiller nos neurones et nos synapses. Surtout quand on a un réveil difficile, ça c'est le premier chapitre d'une journée dans le cerveau d'Anna, sous-titré notre quotidien décrypté par les neurosciences, que vous avez publié aux éditions Erol. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir la neuropsychologue que vous êtes, directrice de recherche au CNRS à l'Université de Paris. Vous menez en parallèle de votre activité de recherche et d'enseignement, vous êtes également clinicienne à la Fondation Ophtalmologique Rothschild, où vous prenez en charge, Sylvie Chocron, les troubles visuels, spatiaux, attentionnels et cognitifs des enfants comme des adultes. Nous vous avons déjà reçu autour d'un petit ouvrage critique sur les tests. Peut-on mesurer l'intelligence ? Dans ce nouvel essai, à la fois pratique, scientifique, un peu ludique, vous nous faites partager, comme son titre l'indique, une journée dans notre cerveau, enfin dans celui d'Anna. Il se passe tout le temps quelque chose, du lever au coucher et même pendant le sommeil, notre cerveau est toujours actif et c'est lui qui est toujours aux commandes. En fait,
exactement. Alors, on le ressent pas forcément, mais même quand nous, on s'arrête de faire quelque chose, notre cerveau continue à travailler. Et on sait même que dans ces moments où nous, on a l'impression de faire une pause, par exemple la nuit quand on dort ou par exemple dans la journée quand on s'arrête dans une activité, ben notre cerveau, il veille, il continue. Et c'est souvent même pendant ces moments de pause que lui, il va faire des liens entre toutes les choses qu'on a faites auparavant. Et c'est souvent dans ces moments de pause qu'il va consolider les informations qu'on a acquises, qu'il va enrichir notre mémoire, qu'il va ancrer nos souvenirs et qu'il va même relier des informations qui sont un petit peu séparées dans notre cerveau, mais qui soudain, en se trouvant reliées pendant ces moments de pause, vont faire émerger une nouvelle pensée, la résolution d'un problème. Donc on l'oublie, on a un cerveau qui travaille 24 heures sur 24. Et c'est bien, enfin moi ce que j'ai voulu faire, c'est de permettre aux gens de comprendre tout ce qui se passe dans leur cerveau à leur insu. Parce qu'évidemment, s'il n'y avait que ce dont nous sommes conscients, ce serait déjà beaucoup. Mais là, on découvre que même pour des processus dont nous sommes totalement inconscients, notre cerveau est aux commandes.
Et notre cerveau est aux commandes d'une manière, enfin comment dire, non pas insensée, mais au fond, ce sont quoi ? Des réactions chimiques, électriques qui se passent dans le cerveau. Et tout ça, ça aboutit alors à des émotions, évidemment, à des pensées, à des perceptions, à des actions. Comment ça marche ? On a beaucoup de mal à imaginer cette... Comment dire, c'est pas une machinerie, mais ce sont vraiment des impulsions.
Ben, en fait, on a longtemps voulu opposer les émotions d'un côté et tout ce qui était neuroanatomique, neurophysiologique de l'autre. Mais en réalité, toutes les opérations dans notre cerveau qui sont électriques, chimiques, physique, parce qu'il n'y a que de la physique et de la chimie dans notre cerveau, conduisent à des émotions, à des perceptions, à des intentions, à des actions. Et finalement, on a d'un côté vraiment la façon dont l'activité cérébrale se propage, qui est permise par des neurotransmetteurs, par du courant électrique, réellement. Et puis, à l'autre extrémité, on a ce dont on fait l'expérience, nous, c'est-à-dire des envies, des émotions, des intentions de faire quelque chose, des actions qu'on produit, des perceptions du monde extérieur, mais tout ça est permis par une machinerie véritablement physico-chimique. Et toute la difficulté, c'est d'essayer de relier les deux et de ne pas être dans un clivage où on aurait d'un côté les émotions, la psychologie, les affects, tout ce qui nous semblerait de la pensée, et de l'autre côté des neurobiologistes qui vous décriraient des événements physico-chimiques. Et ce que j'ai tenté de faire modestement à mon échelle, c'est d'expliquer simplement comment des phénomènes physiques et chimiques peuvent aboutir à des pensées, à des envies, à des désirs, à des émotions, alors que ça nous paraît complètement quelque chose d'immatériel.
Et vous dites d'ailleurs en préambule que les neurosciences n'expliquent pas tout, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de relier les deux, et vous le faites. Alors, dans ce premier chapitre, vous démarrez par le réveil difficile d'Anna, c'est une jeune citadine active, qui est évidemment, comme beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre nous, en manque de sommeil. On parlait du café, on l'entendait avec Oldelaf, et comment l'odeur du café et du pain grillé va lui permettre de se réveiller. Rien que l'odeur, ça va être un...
En fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la perception de l'odeur et le traitement de l'odeur au niveau cérébral, en fait, vont être gérés par une aire qui est toute proche du réseau de la mémoire, du circuit de la mémoire. Et donc, c'est pour ça que les odeurs font remonter des souvenirs, parce qu'il y a des connexions très étroites entre le système olfactif et le système mnésique.
C'est donc la mémoire et l'odorat.
On mémorise très très bien les odeurs.
La Madeleine
et
de Proust.
On les mémorise pour très longtemps. Et d'ailleurs, quand vous retournez, par exemple, sur les lieux de votre enfance, dans l'école primaire où vous étiez, et que vous êtes un adulte, l'odeur de la craie, l'odeur de l'encre, l'odeur du tableau qui vient d'être essuyé avec une éponge humide, tout ça fait remonter plein de souvenirs parce qu'effectivement, le circuit de l'analyse des odeurs et le circuit, donc, on va dire physico-chimique, de l'analyse des odeurs est intimement connecté au circuit de la mémoire. Et c'est pour ça qu'on va, par exemple, chez des patients qui perdraient la mémoire dans des maladies neurodégénératives, on sait que leur faire percevoir des odeurs va leur permettre de réévoquer tout un tas de souvenirs, parce que ces deux circuits sont vraiment quasiment joints. Et donc j'essaye d'expliquer comment une opération physico-chimique va évoquer des souvenirs, va lui permettre de se réveiller, va la replonger dans ses souvenirs d'enfance quand elle était avec ses parents dans sa cuisine et qu'elle sentait l'odeur du café de ses parents. Et effectivement, on n'a pas d'un côté nos sentiments, d'un côté nos souvenirs et de l'autre côté, par exemple, la perception. Tout ça est intimement lié.
Et ça, on s'en rend compte avec une journée dans le cerveau d'Anna, ce qui est assez joli, d'ailleurs, dans la manière dont vous nous faites passer tout ça, Sylvie Chocron, c'est que, alors cette Anna, c'est une jeune fille, ça pourrait être une de vos filles, d'ailleurs, on le sent bien, qui vous dit, si t'es neuropsychologue, aide-moi un peu à comprendre pourquoi je stresse, pourquoi, etc. Et en même temps, vous avez à chaque fois, ça renvoie à des notes scientifiques, et ensuite des explications neuroscientifiques. Donc, finalement, on comprend tout ce qu'on met en branle à chaque instant de la journée pour se lever, pour émerger du sommeil, pour s'habiller, pour
faire des choix tout le temps.
On a besoin de faire des choix tout le temps.
Exactement.
Et vous parlez aussi, alors évidemment, on a entendu parler tout de ce circuit de la récompense. C'est important, ça. Il faut que...
Alors, ce circuit de la récompense, il est déterminant parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui guide nos actions, nos perceptions, notre mémoire, notre attention, c'est la motivation. Et c'est la motivation parce que, évidemment, notre cerveau, contrairement aux machines, il va nous permettre de faire ce qui est important pour nous, ce qui compte pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive, ce qui nous fait du bien. Et ce circuit de la récompense, il vient comme un renforçateur de tout ce qu'on fait. Et on sait à quel point le plaisir est important pour le cerveau humain. Et là encore, c'est l'énorme différence avec l'intelligence artificielle. C'est que nous, ce qui va être notre moteur, c'est vraiment ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien va nous permettre de développer nos capacités, de les utiliser au mieux, parce que ça a du sens pour nous. Et donc, effectivement, dans ce livre, je vais décrire tout ce qui va activer ce circuit de la récompense et qui est crucial pour le bon fonctionnement de notre cerveau, parce que finalement, les sens, le carburant de notre activité cérébrale, c'est le plaisir, c'est la motivation, c'est ce qui est important pour nous. Et il ne faut jamais perdre ça de vue.
Donc il faut savoir que c'est le plaisir, il ne faut pas non plus se laisser complètement happer par ça, mais il faut savoir que le plaisir peut nous guider. Quand on fait bien, notre cerveau est content, et quand on fait du bien, notre cerveau
Exactement.
Est content aussi.
Exactement. Et en fait, ce que j'ai voulu vraiment expliquer par rapport à ce circuit de la récompense, c'est qu'effectivement, on peut trouver du plaisir à des tâches qui sont des contraintes qu'on doit faire. Mais on va être content, par exemple, faire le ménage chez soi, c'est une contrainte. Mais on peut tout à fait ressentir du plaisir une fois qu'on a fait...
Avec de la musique et une fois que tout est propre, ben on est bien content.
Exactement, une fois qu'on contemple le résultat de nos 2 heures de ménage, on est ravi parce qu'on a devant nous le résultat de notre activité. Et donc, d'une part, on peut trouver du plaisir à des tâches qui, au départ, sont des contraintes. Et le cerveau va être très content d'éprouver du plaisir alors qu'il s'est confronté à une contrainte. Et symétriquement, faire du bien aux gens, procurer du plaisir à des gens, être philanthrope, être altruiste, vraiment aider, être empathique, fait du bien au cerveau. Parce que notre cerveau est programmé pour éprouver du bien lorsque l'on fait du bien aux gens.
Il est empathique, notre
exactement.
Cerveau. Et il a des neurones miroirs, on y reviendra peut-être.
Exactement.
Autour de la question, qu'est-ce qui se joue dans notre cerveau? Ah, notre cerveau est-il vraiment aussi multitâche qu'on le pense ou qu'on le veut? Avant de vous laisser répondre, M. Bichocron, je propose l'éclairage du spécialiste de l'attention et de la concentration, le professeur Jean-Philippe Lachaud, que vous connaissez bien, auteur, entre autres, du cerveau funambule, et qui travaille beaucoup sur l'importance de l'attention et de la concentration, même avec les enfants, on l'écoute.
Ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on peut construire, la concentration. Après, la grande question, c'est comment. On nous a tous dit un jour ou l'autre qu'il fallait apprendre à se concentrer. Et maintenant, c'est bien joli, mais à un moment, il faut une sorte de cheminement. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui permette, en partant de zéro, de faire des pas progressifs vers une meilleure concentration. C'est quelque chose qu'on dit aux enfants dans les classes. On leur dit, regardez, apprendre le ski, ça prend du temps. Faire du judo, apprendre à rester stable, ça prend du temps. Mais ça prend du temps aussi parce qu'il faut être dans les bonnes conditions. Il faut être à la montagne pour le skier, avec des skis aux pieds. Il faut être dans un dojo pour faire du judo. La concentration, on peut l'apprendre tout le temps. En fait, n'importe quelle activité de la vie quotidienne permet d'apprendre à mieux se concentrer. Et effectivement, c'est un jeu, c'est quelque chose qui doit être vu comme très agréable. En fait, on a plus de satisfaction à faire ce qu'on fait, à être avec les gens avec lesquels on est. C'est pas un calvaire, c'est pas un travail.
On n'est pas obligé d'avoir les yeux froncés, d'être serré, d'être pas du tout, en fait.
Complètement casser cette image-là, effectivement, de l'effort, de concentration. Non, c'est léger, c'est une attention posée sur une chose à la fois.
Sur une chose à la fois. Tiens, donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus urgent aussi, parce qu'on est quand même de toutes parts assaillis. Devant moi, j'ai un ordinateur, téléphone portable dans ma poche, les enfants aussi. Et on entend d'ailleurs un peu partout ce constat que vous faites vous-même. Attention, attention aux écrans, attention à notre attention et notre concentration. Attention à notre attention, c'est comme ça qu'il faut dire.
Oui, il y a beaucoup de... On en est un petit peu à la phase de l'alarme, là. De plus en plus, voilà, on entend ces signaux d'alarme. On est en train de se faire pirater notre attention dans les documentaire, c'est vraiment l'idée. Manipulation de l'attention, manipulation de la vie mentale, ce qui n'est pas complètement faux d'une certaine façon. Donc vraiment, l'enjeu maintenant, c'est de proposer quelque chose de positif. Moi, j'aime bien dire que par rapport à toutes ces nouvelles technologies qui maintenant semblent effectivement nous voler quelque chose, j'aime bien les comparer à un piège à souris avec du fromage. Il faut pas tout jeter.
Il y a le fromage.
On fait des choses merveilleuses il y a des contenus merveilleux. Le truc, c'est de nous apprendre nous-mêmes, d'apprendre aux gens à prendre le fromage sans se faire prendre par le piège à souris.
Comment on fait, Sylvie Chocon, comme le dit Jean-Philippe Lachaud, pour prendre le fromage sans tomber dans le piège à souris, dans le piège de nos écrans, de croire qu'on est multitâche, qu'on peut tout faire en même temps?
Alors là, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, c'est croire qu'on est multitâche. Donc le premier conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut arrêter d'avoir l'illusion qu'on peut faire plusieurs choses à la fois qui prennent de l'attention. Ce n'est pas vrai.
C'est une illusion.
C'est une illusion parce qu'à l'heure actuelle, même si on est sollicité de toutes parts et qu'on a en parallèle nos mails, nos SMS, notre ordinateur, nos tâches à faire, le dîner du soir auquel on doit penser, etc., 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 on ne peut faire qu'une seule chose à la fois qui nécessite de l'attention.
On ne peut faire qu'une seule chose, même nous les femmes qui en faisons beaucoup.
Alors,
parfois.
Et vous faites bien de dire ça, parce qu'on a voulu faire croire aux femmes qu'elles pouvaient faire plusieurs choses en même temps qui nécessitaient de l'attention. En réalité, les femmes, elles tentent de faire plusieurs choses à la fois qui prennent de l'attention, elles essayent de le faire. Et elles se donnent du mal pour y arriver, ce que les hommes essayent peut-être moins parfois de faire. Mais il ne faut pas que les femmes oublient que même elles, qui essayent et qui sont contraintes parfois de tout faire en même temps, elles ne peuvent pas matériellement le faire. Donc on a l'illusion de pouvoir le faire. Au final, quand on vous parle de charge mentale des femmes, on ne parle de rien d'autre que la surcharge et la fatigue occasionnée par cette illusion de pouvoir faire attention à plusieurs choses à la fois.
C'est pour ça qu'on est parfois épuisé à la fin de la journée.
C'est pour ça qu'on est épuisé, c'est pour ça qu'on dort mal. C'est pour ça que
ça
les
influe
femmes...
aussi sur le sommeil.
C'est pour ça que les femmes ont un sommeil très fragmenté, parce qu'on a l'impression qu'elles ne dorment pas complètement, que pendant qu'elles dorment, elles continuent à travailler sur toutes leurs tâches en parallèle, et que forcément, comme un cercle vicieux, le fait d'avoir mal dormi va rendre encore plus difficile la journée à venir avec toutes ces tâches où il va falloir faire attention, et ainsi de suite. Et donc, je dirais que le premier conseil, c'est de réapprendre qu'on est programmé, on est fait pour ne faire attention qu'à une chose à la fois. Si on fait une deuxième chose en même temps, c'est que cette deuxième chose, elle doit être automatisée. Je vous donne un exemple.
Oui, oui.
Lorsqu'on marche dans la rue avec une amie ou un ami, et que la route est parfaitement lisse, qu'on marche comme ça au printemps ou en été, et qu'on est en basket, on peut tout à fait parler avec la personne à côté de nous. Si maintenant, vous devez marcher sur un sol verglacé avec des talons aiguilles, vous ne pourrez plus parler avec personne à côté de vous. Pourquoi ? Parce que la marche, qui est normalement une tâche automatisée, que vous pouvez associer à une autre tâche, comme la parole, elle va se désautomatiser parce que marcher sur du verglas avec des talons aiguilles, c'est une tâche qui nécessite de l'attention. Et pendant que vous allez faire attention à la marche, vous ne pourrez plus parler avec la personne à côté de vous.
Donc on ne fait attention qu'à une chose, enfin, on ne peut se concentrer que sur une chose.
Exactement. Et le problème actuellement, c'est qu'on a oublié cette règle de base et que du coup, non seulement on a l'illusion qu'on peut faire en même temps plusieurs choses qui prennent de l'attention, mais c'est même pire que ça, c'est que les enfants et les jeunes deviennent intolérants à faire une seule chose à la fois.
Ils n'y arrivent
plus. Parce qu'ils ont perdu l'habitude, parce qu'ils sont sollicités par plein de sources en même temps. Et donc, imaginez ce que c'est pour un ado d'être pendant 2 heures en cours avec une seule personne, une seule source sonore qui parle. Mais ça, c'est plus possible. Et ce que Jean-Philippe Lachaud essaye d'expliquer, c'est qu'il faut justement réapprendre le plaisir de ne faire qu'une chose à la fois.
Ah, on en revient au plaisir.
Exactement.
Il faut retrouver le plaisir d'être vraiment attentif à quelque chose.
Concentré. Et ce qu'il essaye d'expliquer, il dit lui-même, ça devrait être un plaisir de ne faire attention qu'à une chose à la fois. Et donc, prenez le cas des gens qui vont au restaurant dîner et qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils sont en train de dîner avec des gens. Si vous mettez votre téléphone sur mode avion, que vous le mettez dans votre sac et que vous êtes concentré tout le dîner sur ce que vous dit et ce que vous envoie comme signaux la personne en face, vous allez avoir un sentiment de plénitude qui n'est pas une contrainte, qui est un plaisir. Même chose si vous arrêtez de regarder vos messages pendant un spectacle, pendant une série que vous regardez à la télé, pendant un film au cinéma, vous allez reprendre la main sur votre cerveau qui ne fait qu'une chose à la fois et vous allez découvrir à quel point c'est agréable.
Donc, il faut être vigilant, mais c'est agréable. On
Exactement.
Est récompensé
Exactement.
Et on n'est pas épuisé en fin
Exactement.
De journée et dispersé parce qu'en plus, alors j'en reviens une journée dans le cerveau d'Anna, Anna, comme nous tous et nous toutes, elle est aussi attirée par tout ce qui brille. Vous consacrez même un chapitre à sa virée shopping. Autour de la question, qu'est-ce qui se joue dans le cerveau d'Anna comme dans le nôtre, surtout en cette période de solde ? Nouvelle question de ma consoeur, Cécile Estienne, directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho.
Est-ce que les sciences cognitives ont quelque chose à dire sur notre tendance funeste à profiter des soldes ?
Sylvie Chocon, je vous attends là-dessus.
Alors, vous avez tout à fait raison. Les neurosciences se sont penchées sur la question du shopping sur la question de notre addiction aux soldes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est si content quand on voit tout d'un coup un panneau moins 70%
oui,
et pourquoi on va se ruer sur quelque chose dont on n'avait pas besoin et qu'on n'avait pas prévu d'acheter ? Eh bien, tout simplement parce qu'au moment où on voit cet écriteau qui nous dit que tout est soldé, liquidé, qu'on va faire une énorme affaire, on a une activation du circuit de la récompense dans notre cerveau.
Dont on parlait.
Et que cette activité qui libère de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et qui nous dit waouh, on est inondé par cette hormone de plaisir.
Ça va être super.
Ça va être génial. Je vais faire une énorme affaire sur quelque chose que je n'avais pas prévu d'acheter, mais ce n'est pas grave, parce que je vais faire une affaire incroyable. Et bien, ce plaisir qui nous inonde, il va aussi finalement bloquer les régions du raisonnement dans notre cortex frontal. Et du coup, on ne va plus être un être de raison qui se dit « mais je n'ai pas besoin de ça, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Mais j'ai le même à la maison, j'ai le même petit pull noir dans mon armoire bien plié. » Non, il est soldé à moins 70%, il faut que je l'achète. Et là, on perd le contrôle véritablement parce qu'on est pris par ce désir de faire une bonne affaire. Et ce qui est très intéressant que les neurosciences ont montré, c'est qu'on a une région dans notre cerveau qui s'appelle l'insula, qui est une région qui nous permet d'imaginer ce que ce serait d'avoir mal physiquement.
Okay.
Et ben cette région de la douleur physique, elle va s'activer chez les gens qui résistent aux soldes et qui résistent aux achats. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables d'imaginer la douleur morale que ce sera dans un mois d'ouvrir notre placard et de voir qu'on a racheté la même chose simplement parce que c'était en solde. Et donc, les gens qui résistent à l'appel des soldes ou du shopping sont des gens qui activent cette région qui est une région de l'anticipation de la douleur, qui cette fois-ci est une douleur morale, intellectuelle,
oui, oui.
Qui est cette culpabilité qu'on aura quand on va voir qu'on a acheté quelque chose dont on avait absolument
parce que
besoin.
Finalement, on l'aura, cette culpabilité ou cette souffrance, mais sauf qu'ils arrivent à le prévoir.
À l'anticiper. Mm-hmm. Et donc, en fait, ils se mettent dans l'état dans lequel ils seront quand ils vont se rendre compte qu'ils ont acheté un énième pull, un énième sac. Enfin, je parle pour moi, évidemment, je prends des exemples vécus. Et donc,
je vous suis tout à fait.
Et donc, du coup, ils sont capables de se projeter dans l'avenir et de se dire non. Je ne vais pas l'acheter parce que je sais que dans un mois, je vais finir par me dire que je n'avais pas besoin de l'acheter.
Et est-ce qu'on peut se dire, ah bah ça y est, moi, en ce moment, en période
alors,
de sol, est-ce
que
je peux
donner
dire,
des conseils
je vais activer mon insula.
On peut donner des conseils aux gens et on peut leur dire, avant, alors par exemple, on donne ce conseil pour les gens qui font leurs courses en ligne, parce que vous savez qu'en ligne,
oui,
c'est encore
sûr.
Plus impulsif. Et donc on dit aux gens, remplissez votre panier, mais ne le validez pas tout de suite, ne le payez pas tout de suite. Revenez sur votre panier 24 heures ou 48 heures plus tard et regardez si vraiment vous en avez toujours envie. Ou bien allez faire un petit tour dans votre armoire, regardez ce que vous avez avant d'acheter et demandez-vous si réellement vous avez besoin d'acheter ça. Et donc en fait, ce qu'on demande aux gens, c'est de mettre un délai temporel. Parce que le délai temporel, il va permettre aux gens de prendre du recul, d'activer les régions dans leur cerveau qui sont des régions de prise de contrôle, de raisonnement, et du coup de pouvoir véritablement, objectivement décider s'ils ont besoin ou pas de cet article-là.
Merci pour ces conseils que je vais essayer de suivre, chère Sylvie Chocron. Alors heureusement, et vous le dites aussi dans cet ouvrage « Une journée dans le cerveau d'Anna », notre cerveau est particulièrement créatif. Il se raconte tout le temps des histoires, je pense qu'on aura le temps d'aborder ça aussi. C'est le siège, hein, au fond, de notre créativité, notre capacité à innover. On l'a dit, il est attiré par le neuf, mais il est aussi capable de faire du neuf. Et ce sont bien ces capacités-là qu'il s'agit de soutenir et de mieux comprendre, même là où on ne s'y attendrait pas. Des chercheurs en neurosciences se sont notamment intéressés au cerveau des rappeurs, et pas n'importe lesquels. Ceux qui font du freestyle, qui improvisent en paroles et en musique, qui ont le flow. Vous nous direz, parce que c'est vous qui m'avez alerté sur cette étude scientifique parue dans Nature, Sylvie Chocron, vous nous direz ce qui en ressort juste après avoir écouté un des maîtres du genre, le rappeur vidéaste américain Harry Mack, une légende du freestyle, qui improvise et rappe en direct sur sa chaîne YouTube. Extrait.
Yeah. Yeah, 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 okay, okay, check the way that I'm ripping, man, I got them all flipping. I leave rappers terrified, they be scared, they be chicken. Yeah, check the way I'm doing it, that freestyle guy. Word to chicken, word to birds, cause my lyrics too fly. I be coming off the tip of this and spitting the best. H-Mack, I cook you up just like a chicken breast. Yeah, I ain't got no time to kick it with these dumb shits. Word to chicken legs, I got rhythm like drumsticks. Mack on another level when I do my thing. Improvise, leave you fried, something like some chicken wings. Yeah, you think you on my level, problem is you not, boss. I'm spicy like some chicken wings up in the hot sauce. Follow along, killing a song, none of these rappers have heard me. Similar, but we be different, they be your chicken, I'm turkey. Bigger and better when I'm taking flight. Everything that I grab on the mic, just to recite, sounds like something you might sit down to write. But it's improvised constantly, I bomb MCs, I'm dropping words. Ayo, I'm seeing to a distance, no binoculars. Yeah, everything I'm spitting sounded hella dope. They couldn't see me even if they had a telescope. H-Mack, man, my vibe ain't never subtle. You in trouble. Couldn't see me if you's watching on the Hubble. Listen, I'm in another galaxy, another stratosphere. Breaking through the atmosphere, the dopest figure that was clear. Wait, I'm breaking through the atmosphere when I slam it. I guess I'm in the space.
spacecraft that's aerodynamic. See Mac taking flight when he's doing his thing. I'm moving fast, aerodynamic when spreading my wings. Now follow me there, I'm about to blast ya. I'm moving past ya, I make ya gasp for air like asthma. I'm like NASA, I'm leaving the surface and living my purpose. These rappers is worthless, when I'm spitting they be sweating, they nervous. I keep it going, yeah, the Mac ain't never faking. Frying instrumentals like we cooking up some bacon. Every time I'm spitting, people know we getting reckless. Damn, that smells good. Bacon is for breakfast. We got the
Harry Mac sur RFI. Les gens du freestyle rap qui m'impressionnent particulièrement, qui vous impressionnent aussi, Sylvie Chocron. Et c'est vous qui m'avez parlé de cette étude, parce que ça a intéressé très sérieux chercheurs en neurosciences, cette capacité, on l'entend bien avec Harry Mac, à improviser en mots, en sons. C'est complètement fou.
C'est incroyable. Et effectivement, moi, je trouve ça précieux qu'il puisse y avoir des études publiées dans la prestigieuse revue Nature, qui est quand même une des plus prestigieuses revues scientifiques, où on a mis des rappeurs dans des scanners. On a enregistré l'activité de leur cerveau, soit pendant qu'ils chantaient une chanson qui avait déjà été écrite, soit pendant qu'ils étaient en train de créer une chanson, comme ce que Harry Mack est en train de faire là. Et on s'est rendu compte qu'au moment où on crée, et là, véritablement, le rap, c'est un exemple vraiment fabuleux parce qu'on voit que le cerveau, tout d'un coup, c'est comme si on lui lâchait les rênes et qu'on lui disait « vas-y, associe tout ce que tu veux associer sur les sonorités, sur le sens des mots, sur le flow vraiment, etc. » Et on s'est rendu compte qu'on a des boucles inhibitrices dans notre cerveau, c'est-à-dire que dans notre cortex frontal, on a des espèces d'inhibitions qui nous empêchent de créer, et que quand on lève ces inhibitions, c'est-à-dire quand on inhibe l'inhibition, donc quand on empêche ces boucles inhibitrices d'être à l'œuvre, on va permettre au cerveau de mettre en relation des choses qu'il ne mettrait jamais en relation.
En fait, on ouvre quelque chose, enfin, on ouvre les fenêtres ou
et
je ne sais pas quoi à l'intérieur.
Cette étude a montré véritablement que créer, c'est en même temps activer certaines régions, du son, de la musique, du sens, des mots. Donc c'est plus d'activation. Mais pour créer, il faut aussi moins d'inhibition. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, que des gens, par exemple, dans le coma, peuvent se mettre à parler des langues étrangères quand ils vont se réveiller du coma.
Oui.
Ou dans le sommeil,
parce qu'on laisse passer des choses qu'on a tous.
Exactement. Et on a tous rêvé, une fois dans notre vie, qu'on parlait une langue couramment qu'on ne parle pas. Ou bien qu'on résolvait un problème de maths qu'on n'a jamais su résoudre dans notre vie éveillée. Pourquoi ? Parce que, et des chercheurs ont fait des découvertes pendant leur sommeil, et au réveil, ils ont tout d'un coup eu ce moment eureka où ils avaient trouvé la solution à leur problème. Pourquoi ? Parce que pendant le sommeil, finalement, on lève des inhibitions qui nous permettent du coup d'être plus efficients, plus créatifs, de mettre en relation des informations qui ne seraient jamais en relation sinon et qui vont nous permettre d'aboutir à des nouvelles créations.
D'où l'importance aussi de bien dormir.
Enfin, exactement.
Vous le dites au début, pour un âme, on a bien compris que c'est le cerveau d'un âme, mais c'est le cerveau de chacun d'entre nous.
Exactement, hein, voilà. C'est tous nos cerveaux. Et donc, pour la petite histoire, moi j'ai deux filles qui s'appellent Anouk et Nina. Et Anna, c'est la contraction des deux. Et Anouk et Nina descendent du prénom Anna, les deux prénoms. Et donc finalement, c'était effectivement une dédicace à mes filles, mais une dédicace aussi à tous les cerveaux et à toutes ces personnes qui disent bah, « c'est très bien de nous expliquer comment marche l'attention, la mémoire, etc. Mais moi, je voudrais aussi savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'aime raconter des histoires avec mes amis? Pourquoi j'aime rire? Pourquoi ?» Voilà, tout ce qui se passe au quotidien. Et c'était effectivement cette envie d'aller vers notre quotidien à tous.
Et c'était effectivement ce qu'on peut lire, hein. Pourquoi on rit, pourquoi on est tendu autour de la question, qu'est-ce qui se joue dans notre cerveau à chaque instant. Alors je vous propose, chers amis auditrices et auditeurs, de poursuivre le voyage avec Sylvie Chocron dans le cerveau d'Anna, mais dans le cerveau, dans tous nos cerveaux, en nous intéressant toujours au fond au rôle de la musique, mais de toutes les musiques dans notre cerveau, sujet d'étude passionnant de Barbara Tillman. Elle est directrice de recherche en neurosciences à Lyon. Elle a contribué à révéler le rôle bénéfique de la musique dans certaines pathologies, dans certains troubles cognitifs, notamment pour les malades d'Alzheimer, qui réussissent à apprendre des paroles, une musique, une chanson, même quand leur mémoire ne fonctionne plus. Je propose d'écouter Barbara Tillman, que nous avions reçue avec le chercheur Emmanuel Bigan pour la parution de leur ouvrage coécrit, collectif, La symphonie neuronale, joli titre, quand la musique réaccorde aussi nos neurones.
La musique, c'est un stimulus auditif, donc on l'entend par les oreilles, mais elle n'est pas seulement traitée par le cortex auditif comme un premier relais, mais elle implique dans le cerveau tout un réseau neuronal qui active différentes régions du cerveau qui sont impliquées dans d'autres activités cognitives, perceptives ou motrices. Donc vous n'avez pas seulement le cortex auditif, mais le cortex frontal qui est évidemment aussi beaucoup impliqué dans la mémoire, le cortex moteur avec un couplage très fort entre l'audition et la motricité, mais aussi des régions qui sont au centre du cerveau, la ligne médiane, qui sont des régions cérébrales qui résistent le plus longtemps dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, et surtout ces différentes structures neuronales, ils se mettent en concert, entre guillemets, ensemble, mm-hmm. pour créer, ce qui donne le titre de l'ouvrage, une symphonie neuronale. C'est-à-dire que traiter la musique, la percevoir ou la produire, ou tout simplement juste la percevoir, met en jeu un réseau neuronal complexe et qui peut du coup avoir des bénéfices dans certaines pathologies également.
Sylvie Chocron, alors vous, c'est pas avec la musique que vous travaillez, pas tant que ça, sur ce circuit auditif, mais tout de même, que ce soit la musique ou d'autres arts, on y reviendra, tout ça peut aider quoi même à récupérer pour des personnes atteintes de troubles cognitifs, alors, que vous soignez, vous
Ben oui, tout à fait, parce que comme le dit très bien Barbara Tillman, il y a ce qui nous sert à entendre, certes, nos oreilles, notre cortex auditif, etc. Mais il y a tout ce que met en jeu la musique, qui va bien au-delà de l'audition. Percevoir de la musique ou en produire, c'est aussi travailler sur le rythme. Il y a aussi une syntaxe dans la phrase musicale. Il y a du lexique, parce qu'il y a des notes de musique. Il y a de la hauteur, et donc de la fréquence, il y a de l'intensité. Donc, et il y a la motricité, évidemment, parce que soit on joue de l'instrument et du coup, on met en jeu notre motricité, soit on écoute, mais même en écoutant, on peut parfois, quand on joue de l'instrument qu'on est en train d'écouter, mettre en jeu dans notre cerveau les mêmes régions que si on avait joué nous-mêmes, à cause de ces fameux neurones miroirs dont vous parliez avant. Et donc finalement, la musique, elle va faire travailler, qu'on le veuille ou non, à notre insu, tout un tas de régions cérébrales, et c'est pareil de toute façon pour tous les arts en général. Et effectivement, dans la mesure où elle met en jeu tous ces processus de manière non consciente, non volontaire, ces processus-là résistent beaucoup mieux aux maladies neurodégénératives ou aux séquelles des accidents vasculaires parce que justement, ils sont non conscients, non volontaires et associés de manière quasiment automatique. Donc, je vous donne un exemple. Il y a des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer qui vont avoir du mal à vous rappeler quelque chose, un discours, des mots, à trouver un mot précis. Par contre, si vous leur faites écouter une musique qui avait des paroles qui étaient associées, d'une chanson qu'ils avaient connue, les paroles, avec les mêmes mots que ceux qu'ils n'arrivaient pas à retrouver dans le domaine du langage, les paroles vont leur revenir de manière automatique.
La mélodie.
Parce qu'à leur insu, il y avait un lien entre la mélodie et les paroles, et que de manière tout à fait non consciente, ils avaient mémorisé ces paroles. Et donc effectivement, la musique, elle peut faire ressurgir des souvenirs de manière automatique, même quand consciemment, le sujet ne peut pas aller les retrouver.
C'est ça qui est quand même totalement fascinant. Et quand on lit votre ouvrage, Une journée dans le cerveau d'Anna, ou Une journée dans tous nos cerveaux, c'est au fond, c'est tout ce qui se passe à notre insu. C'est vraiment ce qui est à notre... qu'on connaît au conscient, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg.
Exactement.
Mais il se passe un tas de choses. Et tout le temps, là, pendant que je vous parle,
ça n'arrête pas. Exactement. Et vous voyez, pendant qu'on se parle, on se regarde. Pendant qu'on se regarde, on s'en rend pas compte. Mais mon cerveau analyse la taille de votre pupille. Parce que si votre pupille se dilate pendant qu'on se parle, c'est que vous êtes intéressé par ce que je vous dis. Et tout ça se fait à mon insu complètement et à votre insu.
Et en millième de seconde.
Exactement, enfin. Ça se compte en millisecondes.
Millisecondes
et donc
ouais.
Du coup, ce que j'ai voulu aussi expliquer aux gens, parce que les gens ont toujours peur de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle et la modélisation du cerveau, c'est essentiellement une modélisation à partir de nos processus conscients. Et nos processus conscients, c'est une infime partie de notre fonctionnement. Si on n'avait que nos processus conscients, on ne serait pas du tout efficace autant qu'on l'est dans la vraie vie. Et donc, ce qui nous permet d'être aussi efficace, c'est qu'on a des processus non conscients qui sont là, qui veillent, qui travaillent de manière automatique, qu'on le veuille ou non, même si on est fatigué et même si on n'a pas décidé volontairement de les mettre en œuvre. Et ce qui fait la richesse du cerveau humain, ce sont ces processus inconscients qui nous sont précieux, qu'il faut connaître. Parce que je trouve qu'on, pendant des années, on a expliqué aux gens l'inconscient psychanalytique, le refoulement, les affaires.
l'affect, les émotions. Mais c'est bien de savoir aussi que d'un point de vue cognitif, il y a une foule de processus non conscients qui nous permettent d'être aussi efficaces. Et c'est bien de leur rendre hommage, c'est bien qu'ils soient là et c'est bien qu'on sache qu'ils existent.
C'est bien de leur rendre hommage, d'autant que vous les étudiez, vous, en tant que neuropsychologue aussi, quand ils dysfonctionnent, quand ils ne sont pas là. Et là, c'est très, très compliqué. Vous étudiez, vous suivez à la Fondation Rothschild des patients de tous âges, hein, atteints de troubles visuels et cognitifs. Et vous nous avez renvoyé sur un film, comment dire, une comédie tragique, que je vous conseille, hein, chers amis auditrices et auditeurs. Elle s'intitule Chamboule-tout. C'est José Garcia qui interprète le rôle principal, celui de Frédéric, dont la vie et le comportement a changé du tout au tout après un AVC. Et c'est sa femme, interprétée par Alexandra Lamy, qui le raconte dans cet extrait de la bande-annonce.
Mais à l'origine, votre mari, il a eu quoi comme problème ?
Un accident. C'était un samedi, on était tous au tennis, on était bien.
Nice game, vous avez un autre sport ou pas ?
Ouais, c'est malin.
Et papa, il va être gentil, il va aller récupérer ma bague à la bijouterie comme il m'avait promis pour
ce
soir.
Oh non, on va pas faire ça. Non, j'ai pas le temps. Bon. Ok, bon, bah j'y vais, je reviens. Hey, vivez tout ce que vous voulez, hein, c'est pour moi.
Une voiture a fait demi-tour devant lui. Son casque s'est arraché. Sa tête a tapé le sol. Il est tombé dans le coma. Un coma profond.
T'es où ?
Frédéric s'est réveillé aveugle avec un très gros déficit cognitif. Il n'a pas vraiment conscience de sa maladie. Il pense toujours travailler dans la finance.
J'ai au bureau.
Il est resté bloqué en 2013. Il se souvient de tout avant son accident. Par contre, il n'a plus de mémoire immédiate. Il n'imprime plus rien, tout s'efface. Les enfants l'appellent l'ardoise magique. Vous savez, vous secouez et tout disparaît.
En tout cas, il n'a pas perdu l'appétit.
Non, il est devenu obsédé par la bouffe. Il n'y a plus que ça qui l'intéresse.
C'est quoi ? C'est quoi, j'en veux ? C'est quoi ? C'est quoi ?
C'est un Kinder Pingouin.
À vous, le Kinder Pingouin.
Ça se prononce pingoui.
Ah, c'est quoi ? J'en veux. C'est quoi ? C'est quoi ?
C'est mon gradia, papa. Ça se mange pas.
Ah, oh, c'est nul.
À partir de là, tout est devenu compliqué.
Pourquoi je vois plus rien ?
Le coma, c'était presque plus...
Je veux pas rester ici. Non,
plus simple.
Extrait de Chamboule-tout, film touchant, à la fois comique et tragique. Alors, je me suis trompée, hein. Il n'a pas été victime dans le film José Garcia d'un AVC, mais d'un traumatisme crânien. C'est proche, au fond, de la réalité des patients avec lesquels vous travaillez, Sylvie Choucroux.
Oui, tout à fait. En fait, alors, vous avez raison, c'est un traumatisme crânien, mais ça aurait pu être un AVC. Mmh. Hein. Et effectivement, ce qui est très touchant et qui est très bien rendu dans ce film, c'est d'une part qu'il a un handicap invisible, totalement invisible, puisque son trouble de la mémoire, son trouble visuel, ses yeux marchent bien, mais il ne comprend plus ce qu'il voit, il ne détecte plus rien. Son trouble du raisonnement, tout ça, ce sont des handicaps qu'on appelle invisibles, tous ces troubles cognitifs qui peuvent apparaître chez les enfants ou chez les adultes à la suite d'une lésion cérébrale. Et ce qui est très bien rendu dans le film, c'est la méconnaissance du patient lui-même de ses troubles.
C'est ça, il s'en rend pas compte.
Voilà, on dit qu'il est anosognosique, ce qui est un mot technique pour dire qu'il n'a pas conscience de son handicap. Et du coup, lui, il pense qu'effectivement, tout va bien, qu'il est comme avant, etc. Et toute la famille subit, et tout l'entourage subit ce trouble cognitif. Et c'est effectivement très proche des patients que je vois, qui ont perdu à la fois, le plus souvent, la vision par lésion de la partie cérébrale.
En fait, leurs yeux verraient, mais le cerveau ne...
Et donc, on pense toujours que les yeux, c'est l'organe de la vision, mais les yeux sans cerveau, ça ne voit pas. Et donc, en fait, ce qui nous permet de voir, c'est vraiment le cerveau. Et effectivement, les patients dont je m'occupe, sont que ce soit des enfants ou des adultes, sont des patients qui ont eu des dysfonctionnements au niveau cérébral. Leurs yeux fonctionnent très bien, mais leur cerveau ne comprend plus, ne détecte plus, ne mémorise plus ce qu'ils voient. Et donc, ils sont comme aveugles avec des yeux qui marchent bien. Parce que, tout simplement, ils n'arrivent plus à analyser visuellement. C'est un petit peu comme si vous aviez une adresse mail, mais votre ordinateur ne marche plus. Les gens vous écrivent, mais c'est comme si vous n'avez pas écrit. Ben là, c'est la même chose.
Et est-ce qu'on peut... on parle beaucoup de la plasticité, oui, du cerveau. Je sais que vous êtes vraiment partisane de dire attention, rien n'est jamais perdu,
exactement,
foutu.
Exactement.
Est-ce qu'on peut justement récupérer,
oui,
ou
exactement,
passer par d'autres chemins, je
exactement
sais pas.
Alors en fait, on a mis au point des techniques de restauration de toutes ces capacités, que ce soit le langage, la mémoire, le raisonnement et la vision.
Lyon. Et j'en profite même pour rendre hommage à l'association Les Yeux dans la Tête, qui est une association, comme son nom l'indique, qui milite pour faire connaître ces troubles de la vision après une lésion cérébrale et qui milite justement pour améliorer le dépistage et la prise en charge de ces troubles. Parce qu'effectivement, ce n'est pas définitif, c'est pas rédhibitoire et on a maintenant les moyens de restaurer ces fonctions chez les patients. Et donc du coup, c'est important de les reconnaître, c'est important de les dépister, c'est important d'informer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce film était très touchant et très utile, parce que ça permet aux gens de prendre la mesure de ces troubles, sachant qu'on peut maintenant aider ces patients.
Le film s'appelle Chamboule-tou et la chanson qui accompagne ce film, elle est signée Michel Berger. Vous avez choisi de nous la faire écouter et on vous en remercie, Sylvie Chocron, Lumière du jour sur RFI.
Avec indifférence, en chien de faïence, si on se rapproche, si par hasard on danse, c'est comme une défaillance, mais moi, tu vois. Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours, et je t'appelle au secours, perdu dans la nuit. Comment vivre dans un trou noir? Moi j'ai besoin d'y voir. Tu es ma
lumière du jour, Michel Berger sur RFI. C'est votre choix musical, Sylvie Chocron. C'est aussi ce que vous faites un peu tous les jours, hein, de redonner un peu de la lumière et de la vision à des gens qui ne voient plus.
Cette chanson, voilà, me touche beaucoup parce que effectivement, les parents d'enfants qui ont des troubles neurovisuels sont vraiment la lumière de leurs enfants. Ils essayent de leur réapprendre à voir. Et voilà, je trouve que vraiment, et le cerveau de chacun, c'est une espèce d'interaction justement entre les émotions, entre les processus cognitifs, entre le plaisir et tout. C'est important tout de garder ce lien parce que c'est ce qui fait la richesse d'un cerveau humain et il ne faut pas le voir comme une faille ou une fragilité parce que le cerveau humain sera toujours plus puissant qu'une machine parce qu'il a la capacité d'utiliser ses émotions.
Magnifique, c'est important, on se le rappelle autour de la question, qu'est-ce qui se joue à chaque instant dans notre cerveau? Vous décryptez pour nous dans votre dernier ouvrage Une journée dans le cerveau d'Anna ce qui s'y passe. Alors nous, on a préparé cette émission avec Savannah Ruellan qui est notre stagiaire, elle est étudiante à Sciences Po. Moi, elle s'appelle pas Anna, elle s'appelle Savannah. Et elle a un cerveau qui fonctionne parfaitement et encore mieux peut-être depuis qu'elle a lu votre ouvrage pour m'aider à préparer cette émission. Du coup, Savannah a deux questions pour vous, on l'écoute.
Bonjour Sylvie Chocron, je me suis beaucoup identifiée à l'histoire d'Anna, étant moi-même une émotive, et je me demandais si c'était parce que c'est le reflet de ma génération. Par ailleurs, vous expliquez dans votre ouvrage que la littérature, la philosophie, la poésie, l'art en général stimulent nos connexions neuronales. Peut-on alors dire qu'en leur absence, on perdrait en capacité cognitive, voire même qu'elles nous sont intellectuellement essentielles ?
Votre réponse, Sylvie Chocron, à Savannah qui nous écoute derrière la vitre.
Alors, déjà, dans Savannah, il y a Anna. Et donc, ça tombe très bien parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que cette Anna, c'est nous tous.
C'est mes filles, c'est moi, c'est Savannah, c'est tous les gens qui nous écoutent.
Et qui sont émotifs et qui ont un cœur et un cerveau au fond.
Et j'ai voulu que ce soit un personnage sensible, émotif, parce que pour moi, c'est la vraie vie, un cerveau émotif. Et c'est ce que je disais juste avant, un cerveau humain, c'est un cerveau avec des émotions. Et donc, effectivement, c'était important de lier les deux. Et peut-être qu'effectivement, dans votre génération, il y a aussi une prise de conscience de cette sensibilité, de ces émotions. Et il y a une grande question qui est, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est bien, pas bien ? Est-ce qu'on est trop sensible, etc., à notre époque ? Je pense que c'est important d'être sensible et c'est important de savoir quoi faire de ces émotions et de ne pas les renier et de savoir justement les utiliser au mieux. Et à l'époque des réseaux sociaux, je suis d'accord que c'est un petit peu compliqué. Et donc, pour répondre à la question sur l'intérêt de l'art, de la philosophie, de la littérature, c'est vrai que les chercheurs en neurosciences ont beaucoup travaillé sur ce qui est nécessaire pour apprendre à lire, pour apprendre vraiment à décoder, mais ils ont moins travaillé sur tout ce que la lecture apporte et tout ce que le raisonnement, la philosophie, l'art apporte. Et en réalité, vraiment, toutes ces disciplines, elles développent une énorme richesse, parce que par exemple, quand je lis, quelle que soit la lecture que j'ai, que ce soit un roman, de la fiction, un essai, un roman policier, peu importe. En fait, je voyage. Je voyage dans le temps, je voyage dans l'espace, je crée des relations avec ces personnages que je ne connais pas, je les imagine, je m'identifie à eux, je bénéficie de leur expérience, je raisonne, je fais appel à mes émotions. Et en fait, pendant que je lis, quel que soit le type de lecture, j'active la totalité de mon cerveau. Et donc, à l'approche de l'été, et j'ai dit la lecture, mais ça pourrait être aller à une expo, ça pourrait être admirer une œuvre d'art, ça pourrait être écouter un podcast de philo, peu importe la voie d'entrée ou le contenu. Et donc, à l'approche de l'été, il y a ces marronniers qui reviennent tout le temps, où on vous dit « Ah, bah sur la plage, faites des jeux intelligents, des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku,
pour
etc. »
entretenir votre cerveau.
Pourquoi pas ? Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'entretenir votre cerveau en lisant, en discutant, en écoutant des podcasts, en allant regarder des expos, en vous promenant dans un paysage. Parce que pendant que vous faites tout ça, votre cerveau, dans sa totalité, il active votre attention, votre perception, votre mémoire, vos actions, votre raisonnement, votre plaisir, votre intuition, toutes vos capacités. Donc, il ne faut absolument pas se priver.
Vous, d'ailleurs, en dernière partie, vous donnez quelques petits conseils, hein, une petite page juste sur ce qu'il faut faire pour entretenir notre cerveau. Bah, je renvoie nos amis auditrices et auditeurs à votre ouvrage, mais il faut, oui, se promener dans la nature, lire, aller voir des expos, enfin voilà, discuter, échanger.
Passer du temps avec ses amis, et ça c'est crucial, parce qu'on a dit que l'être humain c'était un être d'émotion, mais c'est aussi un être d'interaction sociale.
Interaction sociale. Et donc avec des amis, avec des autres gens, faire du bien, et puis on reviendra peut-être dans une prochaine émission, parce qu'on n'a pas fini. Ah, le rire, ah bah voilà, le rire, la lecture, merci infiniment en tout cas Sylvie Chocron d'avoir partagé un peu avec plaisir d'ailleurs de tout ce que vous commencez à comprendre sur le cerveau, toujours aussi mystérieux, vous le dites bien aussi. Je rappelle le titre de cet ouvrage très agréable à lire, ça fait du bien, et très instructif à mettre entre toutes les mains et tous les cerveaux, une journée dans le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences aux éditions Erol. Et vous revenez quand vous voulez Sylvie Chocron, on n'a pas fini hein,
avec plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de se retrouver demain pour notre dernière table ronde de la saison avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois avec plein de magazines à vous faire gagner. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Savannah Ruellan, notre stagiaire, Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.